إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se retrouve ce soir pour cette conférence par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de commencer, j'aimerais tout d'abord louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'atteindre le mois béni de Ramadan. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de jeûner durant ce mois, de prier durant ces nuits, et de multiplier durant celui-ci les œuvres de bien nous rapprochant de lui, de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée de nous. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent et lui obéissent. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'adoration est donc la raison de ta présence sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé en vain. Il ne t'a pas créé simplement pour que tu viennes dans ce monde, manges, boives, te distrais et autres parmi les futilités, puis que tu meurs sans aucun but à atteindre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé pour une raison noble et immense, qui est le fait de l'adorer, en lui vouant un culte exclusive dans cette adoration. Et les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées sont nombreuses et variées. Certaines ont lieu avec le cœur, comme la peur, l'espoir, la confiance et ainsi de suite parmi les œuvres du cœur. D'autres avec le corps, comme la prière, le jeûne et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Et d'autres encore ont lieu avec l'argent, à l'exemple de l'aumône, le pèlerinage, et autres parmi les œuvres. Et toutes ces adorations, Allah subhanahu wa ta'ala les a légiférées pour nous, afin que l'on puisse se rapprocher de lui, mais aussi afin de nous éprouver, afin de savoir qui parmi nous est le meilleur en œuvre. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Tu es donc dans ce bas monde comme dans une compétition. Et l'objectif dans cette compétition pour toi est d'être le meilleur en œuvre. Celui qui accomplit le plus d'œuvres pieuses pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En les accomplissant sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les adorations qui ont lieu une fois par an, il y a le jeûne du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ce jeûne et en a fait un des piliers de notre noble religion. Et comme vous le savez, le mois de Ramadan se distingue des autres mois par de nombreuses particularités, des particularités qui lui sont propres. Et parmi ces particularités, il y a le fait que c'est le mois durant lequel le Coran est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an » Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Également ce mois, parmi ses particularités, il y a le fait qu'il comporte une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al Qadr est meilleure que 1000 mois. Et d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah a prescrit pour vous de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Vous voyez donc que les particularités et les mérites de ce mois sont très nombreux. Et l'objectif ici n'est pas de tous les mentionner, mais ce ne sont que des exemples À titre de rappel, afin que nous prenions bien conscience de l'importance de ce mois dans notre religion et que celui-ci se distingue des autres mois de l'année. Quant aux sagesses du jeûne, elles sont bien trop abondantes pour être dénombrées. Et la plus grande de ces sagesses est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans sa parole lorsqu'il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum » La'allakum tattaqoon. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. C'est une obligation pour les musulmans. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi? Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous a mentionné la plus grande sagesse du jeûne, qui est de te permettre d'atteindre la piété et de concrétiser cette piété. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré le jeûne simplement pour t'assoiffer ou pour t'affamer. Mais il a légiféré ce jeûne pour nous permettre d'atteindre la piété. Cette piété qui consiste à œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire avec science, en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle consiste également à délaisser la désobéissance à Allah. D'une lumière venant d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, il consiste à tout mettre en œuvre pour atteindre ce noble objectif qui est la piété. Et ceci est confirmé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles et leur mise en pratique, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous a démontré de manière explicite que la finalité du jeûne n'est pas de délaisser la nourriture et la boisson. Mais la finalité c'est quoi? C'est que tu prennes le dessus sur ton âme, que tu la contraignes à délaisser le mal et les péchés et les mauvaises actions, et que tu la contraignes à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tel est l'objectif du jeûne. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il se peut qu'un jeûneur, écoute bien cette parole, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. » C'est-à-dire qu'il n'aura pas la récompense du jeûne. Pourquoi? Car il n'en a pas atteint l'objectif. En effet, celui qui commet des grands péchés, comme le mensonge, l'injustice, la médisance, la calomnie, ou celui qui consomme des boissons enivrantes durant les nuits de Ramadan, ou encore celui qui est malfaisant envers ses parents, celle qui est ingrate envers son mari, alors ceux-là n'ont pas compris la réalité du jeûne. Donc, ils ne vont pas profiter du jeûne de mois de Ramadan, car ils n'ont pas œuvré afin d'atteindre cet objectif immense qui est la piété. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Le jeûneur est celui dont le corps s'abstient des péchés. » La langue du mensonge, des paroles honteuses et des faux propos, le ventre de la nourriture et la boisson, et les parties intimes des rapports charnels. Médite ici sur le fait qu'il a mentionné les choses annulant le jeûne en dernière position. Car bien que ceci soit une obligation, et qu'il est obligatoire pour toi de concrétiser cela afin que ton jeûne soit valide, ce n'est pas cela la finalité. Mais la finalité est que ton corps s'abstienne des péchés, que ta langue s'abstienne du mensonge, des paroles honteuses, des faux propos. Telle est la finalité du jeûne. Ensuite, il dit, rahimahullah, toujours en parlant du jeûneur, s'il parle, il ne prononce rien qui porte préjudice à son jeûne. Il médite sur ses paroles. Il met en pratique la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, ou quoi? Ou qu'il se taise. Si tu n'as pas de bien à dire, tais-toi. Retiens ta langue, ne prononce pas des paroles fausses, ne prononce pas des paroles mauvaises, des paroles grossières, ou alors des mensonges, de la médisance, de la calomnie, ainsi de suite. S'il parle, il ne prononce rien qui porte préjudice à son jeûne, c'est-à-dire qu'il ne prononce que des bonnes paroles, ou alors des paroles qui sont bonnes en soi, comme la récitation du Coran, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikr, le commandement du bien, l'interdiction du mal, ou alors des paroles dont l'objectif est bon. Comme le fait de prononcer des belles paroles à ses parents, à ses enfants, à son conjoint, à sa conjointe, et ainsi de suite. Ceci font partie des bonnes paroles qui sont profitables. Ensuite, il dit, rahimahullah, s'il agit, il ne fait rien qui corrompt son jeûne. C'est-à-dire qu'il ne fait rien parmi les choses annulant le jeûne. Il ne fait rien également parmi les choses pouvant porter préjudice à son jeûne, pouvant diminuer la récompense parmi les péchés et les mauvaises actions. Il dit ensuite, rahimahullah, ses paroles sont donc toutes bonnes et profitables, et il en est de même pour ses œuvres. Il est semblable à l'odeur que sent celui qui fréquente un porteur de musc. Celui qui fréquente un porteur de musc ou un vendeur de parfum. Lorsqu'il va le quitter, il va sentir l'odeur de ce parfum. Il va profiter sans cesse de sa bonne odeur. Ici, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit que le jeûneur, il est semblable à cela. Il dit, de la même manière, celui qui fréquente le jeûneur profitera de sa fréquentation. C'est-à-dire que le jeûneur, il doit avoir un impact positif sur ceux qui sont autour de lui. De par son comportement, de par sa piété, de par son commandement du bien, son interdiction du faux. Et également car c'est un modèle de bien. Les gens vont donc le prendre pour modèle dans ses bonnes actions. Il dit donc, de la même manière, celui qui fréquente le jeûneur profitera de sa fréquentation. Il sera à l'abri du faux, du mensonge, de la perversion et de l'injustice. Car le jeûneur, il est censé s'éloigner de ces choses-là. Tel est le jeûne légiféré, qui ne consiste pas seulement à s'abstenir de boire et de manger. Allahu Akbar. Aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on parle de jeûne, la première chose à laquelle les gens pensent, c'est qu'ils ne vont pas boire et pas manger. Il se peut qu'ils fassent des péchés à longueur de journée. Il n'y a pas de distinction pour lui entre le mois de Ramadan et les autres mois. La seule distinction qu'il a, c'est qu'il ne boit pas et ne mange pas. Mais son quotidien ne change pas. Il continue les mêmes péchés. Il continue les mêmes mauvaises actions, et ainsi de suite. Mais ceci n'est pas le jeûne qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, « Le jeûne consiste donc à ce que le corps s'abstienne des péchés et que le ventre s'abstienne de la nourriture et de la boisson. De la même manière que la nourriture et la boisson cassent le jeûne et le corrompent, les péchés cassent sa récompense et corrompent ses fruits et rendent leur auteur semblable à celui qui n'a pas jeûné. » Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Celui qui commet des péchés à longueur de journée, ou alors qui passe ses nuits, du mois de Ramadan, dans les péchés, la désobéissance, les mauvaises actions, alors il ne profite pas de ce mois. Certes, son jeûne est valide. Il ne sera pas considéré comme celui qui a délaissé le jeûne. Mais il ne tirera aucun profit de son jeûne si ce n'est la faim et la soif, wal'iyadu billah. Mais celui qui souhaite réellement profiter de son jeûne, il doit comprendre cette réalité. Cette réalité du jeûne qu'il nous incombe de concrétiser et qu'avaient saisi nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons et leurs disciples, radiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah. Ils étaient des modèles à ce sujet. Ils redoublaient d'efforts pour préserver leur jeûne, ainsi que les jours et les nuits de Ramadan, de toute futilité et de tout péché. À titre d'exemple, on rapporte de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit, « Lorsque tu jeûnes, que jeûne aussi, c'est-à-dire que s'abstienne aussi, ton ouïe, ta vue et ta langue, du mensonge et des péchés. Fais preuve de quiétude et de sérénité lorsque tu jeûnes, et fais en sorte que le jour où tu jeûnes ne soit pas semblable au jour où tu ne jeûnes pas. Telle est la réalité du jeûne qu'il nous incombe de concrétiser. Lorsque tu jeûnes, que jeûne aussi ton ouïe. Si tu jeûnes que tu ne manges pas et que tu ne bois pas, ce n'est pas pour passer tes journées à écouter des paroles mauvaises, ou alors à écouter de la musique, à écouter les ragots, les rumeurs, les paroles sur un tel et un tel, la calomnie, la médisance. Ton ouïe, elle doit s'abstenir de l'écoute de toutes ces choses interdites. Également, que s'abstienne ta vue. Celui qui jeûne, mais qui passe ses journées et ses nuits sur Internet, sur YouTube, Facebook, Instagram et autres, à regarder des choses illicites, parmi les vidéos, les photos ou autres. Pensez-vous que celui-ci profite du mois de Ramadan? Il n'y a pas de doute que celui-ci, s'il agit ainsi et ne se réforme pas, il ne profitera pas de ce mois, et il sera privé de sa récompense, wal'iyadu billah. Également que s'abstienne ta langue, ce bout de chair que tu as dans ta bouche, qui peut te conduire au plus bas fond du feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Retiens ta langue de manière générale, mais retiens encore plus ta langue lorsque tu jeûnes. En quoi t'est-il profitable de t'abstenir de boire et de manger si tu passes tes journées à manger la chair de tes frères et sœurs en islam?
Celui-ci a fait ceci et cela, celui-ci est comme ceci et comme cela, celle-ci a fait ci, celle-ci a fait ça, et ainsi de suite. Il jeûne, il ne mange pas de nourriture, il n'a pas mangé son déjeuner, etc. Mais toute la journée, il mange la chair de ses frères et sœurs. Et il commet la médisance qui fait partie des grands péchés. Ne pense pas que ce sont des paroles anodines. Ce sont des paroles pour lesquelles tu peux te faire châtier dans ta tombe. Ce sont des paroles qui peuvent te conduire à ta perte. Ce sont des paroles qui peuvent être la cause pour que tu ne tires aucune récompense de ton jeûne, Allah al-Musta'an. Donc il est impératif que tu prennes conscience de cela. Lorsque tu jeûnes, que jeûne aussi ton ouïe, ta vue et ta langue du mensonge et des péchés. Fais preuve de quiétude et de sérénité lorsque tu jeûnes. Comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne fasse pas de vacarme et qu'il ne prononce aucune parole honteuse. Tu fais preuve de quiétude, de sérénité. Et fais en sorte que le jour où tu jeûnes ne soit pas semblable au jour où tu ne jeûnes pas. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une différence flagrante dans ton comportement entre le jour où tu jeûnes et le jour où tu ne jeûnes pas. Bien sûr, ces péchés, ceux que l'on a mentionnés, ils doivent être délaissés tout au long de l'année. Mais lorsque tu jeûnes, tu dois redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts pour t'en écarter, t'en éloigner et te repentir de ces péchés. Il est rapporté d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, ainsi que de ses compagnons, que lorsqu'il jeûnait, il restait à la mosquée. Et il disait à ce sujet, nous purifions notre jeûne. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie nous le préservons de tout ce qui pourrait lui porter préjudice ou en diminuer la récompense. Il reste à la mosquée. Pourquoi? Pour se préserver. Lorsque tu sors, peut-être que tu peux être amené à commettre des péchés, à voir des choses que tu ne dois pas voir, à entendre des choses que tu ne dois pas voir, et ainsi de suite. Donc ceci également, tu dois le prendre en considération. Le mois de Ramadan, il n'est pas fait pour se balader dans les marchés, les centres commerciaux, les parcs ou autres. D'autant plus si dans ces lieux, il y a des choses qui sont réprouvables parmi les péchés et les mauvaises actions qui sont commis ouvertement en ces lieux. Donc durant le mois de Ramadan, tu dois faire en sorte de te préserver de ces lieux, purifier ton jeûne, t'écarter des situations dans lesquelles tu pourrais être amené à commettre des péchés. En ce qui les concerne, il reste à la mosquée afin de se préserver. Et si tu ne peux pas rester à la mosquée, rien ne t'empêche de rester à ton domicile, de te préserver, de t'écarter des endroits où sont commis des péchés et des mauvaises actions. Ou alors des endroits qui peuvent te conduire à l'insouciance, à la perte de temps dans les futilités ou autres. Hafsa, la fille de Sirin, rahimahallah, a dit au sujet du jeûne, le jeûne est une protection. En effet, cela est venu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne est une protection. Lorsque la personne jeûne, elle est plus à même de délaisser les péchés que lorsqu'elle ne jeûne pas. Et méditez sur sa parole ici. Le jeûne est une protection tant que le jeûneur ne la brise pas. Tant qu'il ne brise pas cette protection. Ensuite, elle dit, rahimahullah, et ceux qui la brisent est la médisance. La médisance, elle brise cette protection. C'est-à-dire qu'en prononçant ces paroles de médisance, en prononçant sur tes frères et sœurs des paroles qu'ils réprouvent, en les dénigrant, les rabaissant ou autres, tu as brisé la protection dont tu bénéficiais lors de ton jeûne. Par conséquent, ta récompense en sera diminuée. Abu al-Aliya, rahimahullah ta'ala, a dit, le jeûneur est en adoration. Médite bien sur cette parole immense. Le jeûneur est en adoration tant qu'il ne médit personne. Allahu Akbar. Voyez comment nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils avaient conscience de la gravité de ce péché, qui pour certains aujourd'hui est considéré comme un péché insignifiant. Comme il est venu dans une parole d'Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, ne considère comme une mouche qui se pose sur son nez et qu'il repousse avec sa main. Il le commet en toute indifférence, sans se rendre compte de la gravité de ce péché. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner et de purifier nos langues. Il dit donc, le jeûneur est en adoration tant qu'il ne médit personne, même s'il est en train de dormir dans son lit. Subhanallah. Même s'il est en train de dormir dans son lit, il est en adoration. Il se peut que le jeûneur, dans sa journée, ait besoin de se reposer, de faire une sieste ou autre. Mais durant ce sommeil, il est en adoration. Pourquoi? Parce qu'il jeûne. Et ce jeûne, c'est une adoration du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il est donc en adoration même s'il dort, tant qu'il ne néglige pas ses obligations, bien sûr. Mais Abu al-Aliya, rahimahullah ta'ala, nous dit, tant qu'il ne médit personne, tant que tu préserves ta langue, tant que tu préserves ton ouïe, tant que tu préserves ta vue, tu es en adoration. Beaucoup de jeûneurs aujourd'hui pensent que le jeûne consiste seulement à ressentir la faim et la soif. Tu les vois alors plonger nuit et jour dans les péchés les plus graves et les plus destructeurs, comme les péchés de la langue, comme on a dit à l'exemple de la médisance, la calomnie, le mensonge et autres. Et ils pensent ainsi avoir atteint la perfection dans leur jeûne. Ou ils pensent que le jeûne à lui seul permet de ne pas être blâmé pour ses péchés. Et il n'y a pas de doute que ceci est une grave erreur. Celui qui ne préserve pas son corps, celui qui ne préserve pas son ouïe, celui qui ne préserve pas sa vue, celui qui ne préserve pas sa langue des péchés et des mauvaises actions, alors son jeûne est déficient, d'une déficience proportionnelle à la gravité des péchés qu'il a commis. Et il se peut qu'il n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci est donc la base fondamentale que tu dois sans cesse avoir en tête durant ce mois. Si tu souhaites profiter pleinement du mois de Ramadan, insha'Allah ta'ala, rappelle-toi que le jeûne ne consiste pas seulement à t'abstenir de boire et de manger. Mais que la plus grande sagesse qu'il y a derrière le jeûne, c'est que tu atteignes la piété. Et ceci étant la plus grande sagesse, il est important pour nous de connaître quelle est la voie à emprunter pour pouvoir atteindre cet objectif. Comment atteindre la piété? Et la première chose est de savoir que le jeûne, comme on a dit, est une adoration. Ce n'est pas une simple coutume, mais c'est une adoration que tu dois vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc nécessaire que tu jeûnes en ne recherchant à travers ton jeûne que l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet dans le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, celui qui jeûne en Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec foi, c'est-à-dire avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et en croyant à la prescription du jeûne, et en espérant la récompense, c'est-à-dire en recherchant exclusivement la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne jeûnes pas pour satisfaire tes parents ou pour leur faire plaisir. Tu ne jeûnes pas pour faire comme tes amis ou comme ta famille. Mais tu jeûnes pour obtenir la satisfaction du Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. Fa'budillah mukhlisan lahu ad-din. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également: Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc si tu souhaites atteindre la piété, la première chose est de savoir que tu dois vouer ce jeûne à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la première base sur laquelle repose l'ensemble de tes œuvres. C'est-à-dire qu'aucune de tes œuvres ne peut être acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est en la vouant exclusivement à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui accomplit une œuvre, en me donnant dans celle-ci un associé, je le délaisse lui et son association. Donc le jeûne, comme l'ensemble de tes adorations, ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. S'ajoute à cela que tu jeûnes de façon conforme à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans son livre et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que tu te conformes à la législation. Tu ne jeûnes pas comme bon te semble, mais le jeûne a des règles. Quand commence le jeûne, quand il termine, qu'est-ce qui annule le jeûne, qu'est-ce qui le corrompt, quand est-il permis de ne pas jeûner, qu'est-ce qu'il m'incombe si je ne jeûne pas, et ainsi de suite. Tout ceci, il est obligatoire pour toi que tu l'apprennes, tu dois t'instruire à ce sujet. Ceci fait partie des choses qu'il incombe à tout musulman d'apprendre. Il est donc nécessaire pour toi de t'instruire en écoutant des cours dans lesquels tu apprendras les règles du jeûne. Et si tu ignores une chose, alors tu interroges à son sujet. Mais tu ne dois pas rester dans l'ignorance. Depuis combien d'années jeûnes-tu? Combien de mois de Ramadan sont passés et tu es encore là à ignorer les règles du jeûne? Chaque mois de Ramadan commence et les mêmes questions se répètent. Le musulman doit donc faire des efforts pour apprendre les règles liées à ses adorations qui lui incombent. Et parmi ces adorations, l'adoration du jeûne. Ensuite, une fois que l'on a compris la réalité du jeûne, et que celui-ci ne doit être voué qu'à Allah, et accompli comme l'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est nécessaire de nous rappeler
que la chose la plus importante à faire durant ce mois est d'être assidu à nos obligations. Et la plus importante de nos obligations après le tawhid, c'est quoi? C'est la prière. Cette prière qui est le deuxième pilier de notre religion. La première chose sur laquelle tu seras interrogé au jour de la résurrection. Il est venu dans le hadith, si elle est accomplie convenablement, l'homme aura alors réussi, obtenu le succès. Mais si elle est mauvaise, alors il aura certes perdu. La première chose sur laquelle tu seras interrogé au jour de la résurrection, ta prière. Es-tu assidu à celle-ci? Fais-tu tes cinq prières en leur temps, en respectant leurs conditions, leurs piliers, leurs obligations? Accomplis-tu cette prière convenablement, conformément à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala? Tu seras interrogé à ce sujet. De plus, tu dois te rappeler la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans le hadith, rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Jabir, radiyallahu ta'ala, anhu. Ce qui sépare l'homme du polythéisme ou de la mécréance, c'est la prière. La prière, les cinq prières quotidiennes. Et il a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, d'après Buraïda, le pacte qu'il y a entre eux et nous, c'est la prière. Celui qui la délaisse a certes mécru. C'est-à-dire que celui qui la délaisse totalement tombe dans la mécréance. Et Shaykh ibn Abdillah, rahimahullah, un noble disciple des compagnons, a dit, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ta'ala anhum, ne considérez le délaissement d'aucune œuvre comme de la mécréance, si ce n'est le délaissement de la prière. Il est donc surprenant aujourd'hui de voir nombre de personnes assidues au jeûne du mois de Ramadan, ou même à la prière du Taraweeh, alors qu'ils délaissent leurs cinq prières quotidiennes, ou les négligent en les faisant sortir de leur temps. Donc si tu veux profiter pleinement de ce mois, tu dois commencer par être assidu à tes obligations. Et parmi ces obligations, l'obligation de la prière. On trouve dans le hadith authentique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Allah a certes dit ». C'est donc un hadith Qudsi. « Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que par ce que je lui ai prescrit. » Les œuvres obligatoires. Commence donc tout d'abord par tes obligations. À commencer par les cinq prières, la zakat obligatoire, le jeûne obligatoire, la bienfaisance envers les parents, les droits de l'époux, les droits de l'épouse, les droits des enfants. Donne de l'importance à tout ce qui est obligatoire pour toi. Ensuite, il dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire qu'une fois que tu es assidu à tes obligations, fais suivre celles-ci d'œuvres surérogatoires, comme les prières surérogatoires, les aumônes surérogatoires et ainsi de suite, qui te permettront d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une erreur, durant le mois de Ramadan, d'être assidu à la prière de Taraweeh, alors que l'on néglige ces cinq prières obligatoires. Mais il est impératif de commencer par être assidu à ces cinq prières, le Fajr, le Dhuhr, l'Asr, le Maghrib ou l'Isha, et de les accomplir en leur temps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a légiférés. Si tu es assidu à cela, tu fais suivre ces prières, des prières surérogatoires comme les rawatib, qui sont au nombre de 12, deux unités surérogatoires avant la prière du Fajr, deux et deux avant le dhuhr, deux après le dhuhr, deux après le maghrib et deux après l'isha. Celui qui accomplit ces 12 unités dans une journée, comme il est venu dans le hadith, Allah lui construit une maison au paradis. Et ensuite, parmi les prières surérogatoires, qui sont d'une grande importance, d'autant plus durant ce mois béni, la prière de nuit, qui est une cause pour obtenir le pardon de tes péchés passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui a accompli la prière de nuit durant Ramadan, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Avec foi et en espérant la récompense, comme on a dit pour le jeûne. Avec foi en Allah et en croyant que ses prières sont légiférées, en espérant la récompense, c'est-à-dire que tu pries seulement pour Allah, pour obtenir la satisfaction d'Allah. Non pas par ostentation, pour obtenir les compliments des gens, pour qu'on dise celui-ci est pieux, il prie la nuit, etc. Non. Tu pries seulement en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière de nuit, comme vous le savez pour bon nombre d'entre nous, elle ne sera pas cette année accomplie dans les mosquées une fois de plus. En raison de cette épidémie, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la dissiper. Il est donc légiféré de l'accomplir chez soi, en 11 unités comme elle est accomplie à la mosquée, en les faisant deux par deux et en clôturant par le witr que l'on fait en 1 ou en 3 unités. Et j'ai détaillé dans un cours les règles de la prière de nuit et vous pouvez le retrouver en ligne sur le site Inch'Allah ta'ala. Toutefois, j'attire ici votre attention sur le fait que la mosquée n'est pas une condition pour cette prière. De même que le fait de connaître le Coran par cœur n'est pas une condition pour cette prière. De même que le fait d'être en groupe n'est pas une condition pour cette prière. Même si tu es seul, tu peux accomplir cette prière. Et si tu es sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, que tu accomplis cette prière espérant sa récompense, même si tu ne l'accomplis en ne récitant que Sourate al-Fatiha, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que cette prière soit la cause d'un grand bien pour toi, bi-idhnillahi ta'ala. Ne méprise rien parmi les œuvres de bien, même si tu ne connais que très peu de sourates du Coran. Même si tu répètes dans chaque unité de prière les mêmes sourates du Coran, l'essentiel est que tu sois sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et que tu te conformes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu le désires, il t'est permis durant cette prière, la prière de nuit, de lire à partir du mushaf. Si tu ne connais pas le Coran par cœur mais que tu souhaites le lire en entier durant cette prière, alors il n'y a pas de mal à prendre devant toi le mushaf et à le lire durant ta prière, comme cela est rapporté de certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et celui qui se trouve en famille, c'est une bonne chose pour lui de se réunir avec sa famille pour cette prière, de l'accomplir avec son épouse et ses enfants, ou alors de l'accomplir avec ses parents et ses frères et sœurs. Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des œuvres les plus profitables sur lesquels peuvent se réunir les membres d'un foyer. Aujourd'hui, les gens, ils se réunissent pour manger, pour se distraire, ou alors, pire encore, ils se réunissent pour des péchés devant la télé ou autre, mais ils ne se réunissent que très peu pour l'adoration et l'entraide dans le bien et la piété. Ils se mettent des barrières à ce sujet. Et ceci est une chose regrettable. Il convient pour le musulman d'être une clé de bien et de s'entraider avec son entourage en commençant par sa famille dans le bien et la piété. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et parmi ce bien et cette piété, il y a la prière de nuit durant le mois de Ramadan, qui même si les mosquées sont fermées, ne doit pas être négligée. Ensuite, parmi les œuvres recommandées durant Ramadan, pour celui qui souhaite profiter pleinement de ce mois, il y a l'aumône et la lecture du Coran. D'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des gens. Et il était encore plus généreux lorsque venait le mois de Ramadan. Lorsque Djibril le rencontrait, et il le rencontrait chaque nuit de Ramadan pour réciter ensemble le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux que le vent envoyé. Donc le croyant qui désire profiter pleinement du mois de Ramadan, il doit faire des efforts pour consacrer son temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chercher à se rapprocher de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. En plus de l'accomplissement de tes obligations, tu dois faire des efforts pour passer ton temps à lire le Coran, à faire des prières surérogatoires, à aider les pauvres et les nécessiteux, à aider les gens dans le besoin, à nourrir des jeûneurs si tu en as les capacités. Et également, comme on a dit, à prier la nuit et autres parmi les œuvres de bien. Tu ne dois pas laisser une adoration sans en saisir ta part. Tu prends ta part de lecture du Coran, ta part d'aumône, ta part de prière de nuit, ta part de prière surérogatoire, ta part de dhikr, et ainsi de suite. Toujours bien sûr en faisant prévaloir les œuvres les plus méritoires parmi les adorations. Et pour ce faire, il te convient d'organiser ton temps, de te faire un programme, en fonction de tes capacités et de ton temps, durant ta journée. Il ne convient pas, comme le font certaines personnes, de se surcharger durant les premiers jours de Ramadan, puis ensuite de tout délaisser dès la deuxième ou la troisième semaine. Mais au contraire, tu dois faire en sorte que tes œuvres aille en augmentant et en s'améliorant durant ce mois. Et toujours te rappeler de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont les plus constantes, aussi minimes soient-elles. Aussi minimes soient-elles. Donc, chacun d'entre nous est plus à même de savoir ce qui lui convient. Et chacun d'entre nous est plus à même de savoir ce qu'il est capable d'accomplir durant ce mois. Sans oublier que ce mois est une opportunité immense pour nous afin d'affranchir nos âmes du feu de l'enfer. Donc, on doit tout de même faire des efforts pour accomplir des œuvres supplémentaires et faire plus d'efforts que durant les autres mois. Et il n'y a pas de doute qu'il fait partie des meilleures façons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce mois, de lire son noble livre, de le réciter, de le mémoriser, de chercher à le comprendre et de le mettre en pratique. Et si tu ne sais pas lire le Coran, tu dois alors faire des efforts pour apprendre à le lire. Combien d'années vas-tu laisser passer sans savoir lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien d'années vas-tu laisser passer sans pouvoir lire le Coran, sans pouvoir profiter de cette récompense immense qu'il y a dans la lecture du Coran et d'autant plus durant le mois de Ramadan?
Donc si tu ne sais pas lire, dès maintenant, fais des efforts, cherche un professeur. Que ce soit autour de toi ou en ligne ou autre, fais des efforts pour apprendre à lire. Et ceci est une chose simple pour celui qui est sincère et véridique dans sa recherche. Ce n'est qu'une histoire de temps et d'efforts, bi'idhnillahi ta'ala. Donc fais des efforts. Ne laisse pas ce mois passer sans pouvoir clôturer la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'oublie pas que ce mois, tu n'es pas sûr de le retrouver. Il est possible que ce mois, ce soit la dernière fois que tu aies l'opportunité de le jeûner. Personne parmi nous ne sait quand la mort viendra. Combien sont ceux qui jeûnaient avec nous l'an passé et qui sont morts? Combien sont ceux qui jeûnaient parmi nous l'an passé et qui, cette année, sont malades, souffrants et ne peuvent pas jeûner? Donc si tu es vivant et en bonne santé, tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala et prendre conscience de ce bienfait. Et fais partie de la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala que tu utilises ce temps et cette santé dans la recherche de sa satisfaction et de son agrément. Médite sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: au jour de la résurrection, les pieds du serviteur ne bougeront pas jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur sa vie. Dans quoi l'a-t-il passé? Est-ce qu'il a passé sa vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce qu'il a passé sa vie dans les péchés, les mauvaises actions devant la télé, derrière Internet ou autre? Dans quoi l'a-t-il passé? Sur sa science, qu'a-t-il fait avec? Est-ce qu'il a mis en pratique ce qu'il a appris? Il a écouté des cours, il a lu des livres. Mais qu'a-t-il mis en pratique parmi cela? Il a pris connaissance de ces choses. Il a pris connaissance de ses jugements. Il a pris connaissance des mérites de certaines œuvres. Mais les a-t-il mises en pratique? Sur son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé? Est-ce qu'il a cherché à gagner de l'argent de manière licite? Est-ce qu'il a cherché à dépenser son argent dans le bien? Est-ce qu'il a donné sa zakat obligatoire? Est-ce qu'il s'est servi de cet argent et l'a dépensé sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? En faisant des aumônes, en le distribuant aux pauvres, aux nécessiteux, en nourrissant des jeûneurs, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Et sur son corps, dans quoi l'a-t-il usé? Dans quoi as-tu utilisé ton corps? Est-ce dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien est-ce dans les péchés? Sur tout cela, tu seras interrogé au jour de la résurrection et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la réussite et le succès. Donc, chacun d'entre nous, dès maintenant, doit avoir la ferme intention de se réformer, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se corriger et d'améliorer sa situation afin de profiter pleinement de ce mois de Ramadan. Afin de pouvoir répondre à ces questions qui sont venues dans le hadith d'une façon agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, tu te dois de multiplier les œuvres de bien qui te rapprochent d'Allah et prendre garde à tout ce qui pourrait te faire perdre la récompense de ce mois. Ou alors, voir ce mois partir sans en avoir profité. Et parmi les choses les plus dangereuses qui peuvent te faire perdre la récompense de ce mois, il y a ce petit objet qui se trouve à proximité de chacun d'entre nous et qui est le téléphone. Wallahi, ce téléphone, si tu as la possibilité de t'en écarter totalement durant ce mois, fais-le. Si tu ne peux pas alors, fais en sorte de t'en éloigner le plus possible. Ne perds pas ton temps durant ce mois sur les réseaux sociaux, à lire les actualités, les informations ou autres. Ne perds pas ton temps durant ce mois à lire les ragots ou les rumeurs sur les réseaux sociaux. Ne perds pas ton temps durant ce mois sur YouTube à regarder des vidéos qui ne te seront d'aucune utilité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pire encore, ne perds pas ton temps durant ce mois en commettant des péchés et des mauvaises actions avec ce téléphone, en écoutant et en regardant des choses interdites. Wal'iyadhu billah. Et de la même manière, ne perds pas ton temps à répondre à tous les appels de toute personne. Mais consacre ton temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vient le moment de la prière de nuit, mets ton téléphone en silencieux ou en mode avion. Lorsque tu veux lire le Coran, mets-le en silencieux ou en mode avion. Écarte-toi de ce téléphone, ne perds pas ton temps. Et écarte-toi également de la mauvaise compagnie. Des personnes qui te font perdre ton temps et ne te font profiter d'aucun bien. Celles qui ne sont occupées que par un tel a fait, un tel a dit, et ainsi de suite. Mais entoure-toi durant ce mois de personnes qui vont t'aider à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à te réformer. Ceci était donc quelques conseils et quelques rappels que je souhaitais m'adresser à moi-même ainsi que mes frères et sœurs afin que nous puissions profiter pleinement de ce mois béni de Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à jeûner durant ce mois avec foi et en espérant la récompense d'Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à prier durant les nuits de ce mois avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à profiter pleinement
du mois de Ramadan et de nous aider à multiplier durant celui-ci les bonnes actions nous rapprochant de lui. On va donc s'arrêter là, inshallah ta'ala, et on se retrouvera dès demain, inshallah, pour le début du programme des cours de Ramadan qui, comme vous l'avez vu, a été annoncé. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.